Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
J'aimerais finir la série Respire sur peut-être ce week-end et le week-end prochain. Et je vais prendre donc 4 sessions avec vous, 4 célébrations pour aborder des points extrêmement importants. Vous vous souvenez qu'on a commencé la série en voyant ensemble quels seraient les signes qui pourrait nous alerter sur notre propre condition spirituelle, les signes qui nous disent « Attention, tu peux être en danger, tu es en train d'étouffer ou tu ne respires plus, ou tu ne respires pas, ou tu respires mal. » Et il y a donc dans la vie chrétienne, il y a souvent ces dangers, qu'elles soient comme des attaques, qu'elles soient des tentations, peu importe le style de pression spirituelle que nous vivons, il n'est pas normal qu'un chrétien ne respire pas la vie que Christ a pour lui ou elle. Il n'est pas normal qu'un chrétien ne soit pas un conquérant. La définition même du chrétien, c'est petit Christ. L'onction qui demeure en Christ demeure en nous et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Et donc, il est nécessaire pour vous et moi en ce moment de se dire comment être une église qui respire? Comment être une église qui donne la vie? Comment être un papa qui respire, un papa qui donne la vie à ses enfants, un mari qui respire, un mari qui donne la vie? Par définition, si tu es mort et que quelqu'un a une crise cardiaque à tes côtés et qu'il tombe mort à tes côtés, tu ne pourras pas lui faire le bouche à bouche. T'es mort. Un mort plus un mort égale deux morts. Et si l'Église n'est pas vivante, et si l'Église n'a pas la présence et la puissance de Dieu, et la sagesse de Dieu, et le cœur de Dieu, elle ne peut pas réveiller un mort. D'ailleurs, on ne réveille pas les morts. On les ressuscite. On ne peut pas donner à la France des médicaments. Il lui faut la puissance d'une vie en Christ, qui viennent secouer les fondements d'un pays qui s'érode. Il faut une église forte. Et je crois de tout mon cœur que, et je sais que c'est le cas, la solution de Dieu pour le monde, c'est Christ. Mais les porteurs de solutions, c'est vous et moi. Nous portons Christ en nous. Nous portons la présence de Dieu en nous. Nous sommes ceux et celles que Dieu a choisis pour amener la solution à un monde en perdition. Le problème, c'est que vous et moi, nous devons vivre cette solution au quotidien. Et c'est le but de la série Respire. Avant de commencer une nouvelle série en septembre, nous voulons finir avec vous cette série qui s'appelle Respire. Tout le monde dit Respire. Regarde ton voisin et dis-lui Respire. Tu ne peux pas lui dire Respire. Il faut qu'il sente qu'il y a un mouvement de vie. Dis-lui Respire. Alors j'aimerais ce soir vous proposer de finir avec nous cette série, de prendre des notes s'il vous plaît. Et une parenthèse que j'aimerais juste noter, les messages sont en vente, ils sont aussi en ligne. Et la raison pour laquelle on a mis en vente les messages, c'est aussi pour pouvoir embaucher plus de personnes. À aujourd'hui, il me faudrait au minimum 8 personnes de plus à plein temps pour prendre soin de vous. Et comme la France, il n'y a pas beaucoup de charges. Il nous faut un peu plus de pesetas. Donc on se dit, les messages que l'on vend ne vont pas dans la poche de Steve et moi, je vous garantis. Non, ça va pour une caisse spéciale pour les futurs ministères et ceux et celles que nous voudrions embaucher. Donc, si vous voulez réécouter les messages, allez en ligne, podcast, achetez-les, bénissez l'Église, faites ce que vous voulez, mais réécoutez les messages et pratiquez la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, pour commencer le premier passage clé de ce soir et du week-end, c'est Proverbes, chapitre 24, au verset 3. L'onction est reçue et maintenue dans la vie de celui ou de celle qui est dans la mission que Dieu lui donne. Mais l'onction n'est pas un signe d'approbation de Dieu. Parce qu'il y a eu un Samson qui était rempli d'onction, mais il n'était pas approuvé par Dieu. Oula. C'est important de comprendre ça. Et je sais qu'il y a différents types de ministères, différents types d'approches, mais je vous garantis, la Bible est claire à ce sujet. La chose principale qu'il faille chercher dans nos vies, c'est la sagesse. L'onction est capitale et nécessaire pour faire avancer les choses, mais l'onction sans sagesse ne construit pas. Proverbe 24, c'est tout bizarre d'un coup là, c'est bizarre. Proverbe 24, verset 3 nous dit « Il faut de la sagesse pour construire une maison. Et il faut de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force. L'expérience augmente son pouvoir, son autorité. » Quand un homme est capable de manifester la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, quand une église est capable de manifester la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, elle construit une maison selon le cœur de Dieu. Si vous me demandiez à moi, quel est le plus important ? Est-ce une vie de puissance ou une vie de sagesse ? Bien que Dieu ne demande pas à ce que nous fassions un choix, mais si vous me demandiez à moi ce soir, je commencerai par la sagesse. Ce qui prouve que Dieu nous approuve, c'est la faveur. Et la faveur est une réponse aux fruits. Jean 15 nous dit, « Par les fruits que vous portez, mon Père sera glorifié. » Ok, bon. Peut dire amen ou pas amen, c'est chouette. La vérité, c'est qu'il nous faut de la sagesse et de la puissance pour construire une église selon le cœur de Dieu. Il faut des ministères comme Leon. Il faut des ministères comme Steve, comme Pasteur Marc, comme Jérémy, comme Samuel, comme Bruno, comme Luc Dumont. Il faut un paquet de ministères. Il faut un paquet de ministères ouins et sages pour construire le peuple de Dieu. Il faut les 5 ministères. Il faut de la sagesse pour savoir quand dire quoi et comment le dire et où le dire et comment le faire. Il faut de la sagesse pour savoir quand tu lâches de la puissance et quand tu la retiens. Il faut de la sagesse pour savoir quand semer et quand ne plus semer. Il faut de la sagesse pour prendre les meilleures décisions qui vont construire un futur qui ne ressemble pas au passé. Et ce soir, j'aimerais vous encourager ce soir à considérer le message de ce week-end et du week-end qui vient. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et comment se fait-il que nous voulons, vous et moi, respirer et que bien souvent nous ne respirons pas? Par la grâce de Dieu, je crois de tout mon cœur et je le vois dans vos messages, dans votre façon de réagir, qu'entre le moment où nous avons commencé la série et aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous respirez mieux. Ça se sent. Le passage de Lyon a rafraîchi beaucoup de gens. Gloire à Dieu, c'était génial. Et nous devons, vous et moi, nous poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je peux respirer la vie de Dieu et donner la vie de Dieu? Je fréquente ceux qui respirent. Écoutez bien ce soir. On va aborder 10 choses. 10 points, pas ce soir. On n'a pas le temps. Mais 10 points ce soir, dimanche matin, vendredi soir et dimanche prochain. 10 points qui vont nous aider à maintenir une vie dans laquelle je respire. Qui aimerait respirer à plein poumon? Te lèves le matin, tu respires, le diable peut être à tes côtés, tu fais « Oh, ce n'est que toi ?» Les gens sont trop en train de dire « Oh, le diable, ceci !» Mais le diable n'a plus de dents. Il a été désarmé, dépouillé, il n'a plus aucune autorité, il n'a pas les clés, il n'a plus les clés de la vie, il n'a plus les clés du royaume, il n'a plus rien. Nous sommes l'Église à qui Dieu a donné les clés. Exact. Ça, c'était un beau amen. Donc, avant de partager ces points ce soir, j'aimerais vous imaginer ma vie en 4 chapitres. 4. Chapitre 1. J'ai décidé d'aller me promener, de faire un petit tour. Et sur le chemin, j'ai pas vu le trou. Et je suis tombé dans un trou profond et noir et ténébreux. Et il m'a fallu des mois et des semaines pour en sortir. J'ai souffert, j'ai galéré. Je sors du trou. Je respire à nouveau. C'était compliqué. Hein. Là, je reprends ma direction. Je vais aller là-bas. Et je repars. Et boum, le même trou. Je me suis pris le même trou. J'ai galéré pour sortir. Des mois, des semaines de pleurs. J'ai affecté mon mariage, mes relations, l'église. J'ai galéré. Je ressors du trou. Je me dis, ouh, c'était compliqué, c'était dur, ça m'a bien fait souffrir. Troisième chapitre de ma vie. Je reprends la même direction. Je marche. Ouh, là, je fais là, j'ai vu le trou. Non, 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 je l'ai vu ce coup-ci, je me rappelle qu'il était là. Le chameau. Deux trous. Mais comme je suis têtu, comme très peu de chrétiens, je m'approche pour quand même voir pourquoi il était aussi noir, ce trou-là. Et puis, boum, je tombe dans le trou, les gars. Le même trou. Je galère à remonter des mois et des semaines. Mon épouse en a marre que je me paye le même trou. Le pasteur en a marre que je me paye le même trou. Dieu en a marre que je me paye le même trou. Et pourtant, je savais qu'il était là. Je ressors du trou. Je respire à nouveau. Je regarde devant moi. Je sais qu'il y a un trou quelque part. Et tout d'un coup, quatrième chapitre, je change de direction. Ça, c'est une vie de repentance. Notez ce qui suit, s'il vous plaît. Celui qui respire vit une vie de repentance. Qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est la capacité de choisir de changer de direction, de dire je refuse de refaire les mêmes erreurs, j'apprends de mon passé, je ne fais plus les mêmes choses, je change de comportement, je change d'attitude, je change d'amis s'il le faut, je change mes relations, je change ce que je faisais de mal, je change ce qui ne marche pas, je change de direction, je prends une direction qui plaît à Dieu, une direction qui honore Dieu, une direction qui manifeste Dieu et ma vie change. Alors j'ai décidé ce soir de vous encourager et de vous dire, en parlant, personne n'a besoin d'inventer des nouvelles façons d'échouer. Les façons qui existent déjà marchent très bien. J'ai rendu compte de ça. Pas la peine d'inventer, fais les mêmes erreurs que tout le monde, tu vas goûter quand même. Alors ce qu'on va faire ce soir, écoutez bien, ce qui va suivre, ça va aller très très vite. J'ai décidé de ne plus jamais, et là je vous donne 10 choses qu'on ne fera plus jamais. Certaines, on va les développer, d'autres non. Premièrement, j'ai décidé, notez si vous le pouvez, j'ai décidé de ne plus jamais refaire ce qui n'a pas fonctionné. J'ai décidé de ne plus jamais refaire ce qui n'a jamais fonctionné. Deuxième chose, écoutez bien ça. J'ai décidé de ne plus jamais faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. J'ai décidé de ne plus jamais faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. Troisième chose, ça là est pas mal, le 3 qui vient, ça va bien vous parler. J'ai décidé d'arrêter d'essayer de changer l'autre. Ah, je savais, il y a des points qui touchent plus que d'autres. Le quatrième point est pas mal non plus. J'ai décidé de ne plus jamais croire que je vais plaire à tout le monde. J'aimais bien ce gars-là qui s'appelle Perry Tyler, un acteur, et il fait du théâtre. Et il dit, il est chrétien, il aime Dieu, et il dit, vous savez, il était à la conférence, et il partageait son cœur de leadership, et il a développé ce point-là que j'ai noté. Il a dit, tu sais, il a cité Bill Cosby. Qui connaît Bill Cosby? Non, vous connaissez aussi les anciens, oui. Et Bill Cosby a dit un truc très fort. Il a dit, quelqu'un lui a demandé, c'est quoi le secret de votre succès? Et Bill Cosby a dit, je ne sais pas c'est quoi le secret du succès, mais je sais c'est quoi le secret de l'échec, vouloir plaire à tout le monde. Et Perry Taylor a appris sa leçon. C'est un jeune acteur, un producteur, il est très connu aux USA. Et Perry Tyler, il était dans l'église jeudi matin avec nous et il partage son expérience et il dit, tu sais, je me suis rendu compte qu'un jour, j'étais en train de faire ma pièce de théâtre et j'ai dit à mon équipe, ne mettez pas les critiques de théâtre au premier rang. Parce que vraiment, ils me frustrent, vraiment, ils m'impressionnent, ils sont là, ils me regardent, ils prennent des notes et je sais que le lendemain, dans le journal, ils vont me démonter. Mettez-les loin, cachés quelque part. Je ne veux pas voir au premier rang des critiques. Je veux voir des gars qui aiment mon théâtre. Manque de peau. Le soir de sa première grande pièce de théâtre, il y a deux critiques en face de lui. Les deux sont là avec le stylo, prêts à prendre des notes. Il dit, purée, c'est impossible. Et là, il entend Dieu lui dire, Perry, fais ta pièce. Tu es talentueux, tu as un talent, tu l'as écrite, fais ta pièce. Ça, elle est pleine, fais ta pièce. Le reste, tu verras demain. Il fait sa pièce. Et il voit tout d'un coup, il voit que le stress s'en va et il fait sa pièce. Le lendemain, il a les deux articles, les deux critiques. Le premier a détesté. Le gars a balancé des choses sur lui, affreuses, c'était pas du tout marrant, c'était nul. Le gars, c'est pas possible. Le deuxième, il a adoré. C'était canon, la plus belle pièce de l'année, le top du top, faut aller voir. Elle a pris une leçon. Il a dit, tu peux avoir plusieurs personnes dans la même salle qui écoutent le même message, qui écoutent la même chose, qui voient la même église, qui font les mêmes choses, mais ils n'ont pas les mêmes réactions du tout. Si tu commences à vouloir vivre pour plaire à tout le monde, tu auras échoué. Cinquième chose, je décide de ne plus jamais choisir le confort d'une décision basée sur l'instant à la place ou au lieu de faire un choix dont les bénéfices sont sur le long terme. Le sixième est bon aussi. Je décide de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Oula, je vais expliquer, relax. Je décide de ne plus jamais enlever mes yeux de la grande image. Question ce soir, avez-vous les yeux sur la grande image? Est-ce que vous comprenez que nous vivons pour très peu de temps et que notre vie peut marquer l'éternité? Vous savez, un jour quand je vais mourir, sur ma tombe, il y aura Bruno Picard, 1976-2124. Les progrès de la science et tout. Donc, le tiré là, c'est notre vie. 8. Je décide de ne plus jamais négliger les détails et confondre avec les choses importantes. 9. Je décide de ne plus jamais oublier de me demander où suis-je dans ma vie. Est-ce que tu te demandes souvent où est-ce que tu en es en ce moment? De faire un bilan sur ta vie, un bilan sur tes relations, un bilan sur ton onction, un bilan sur tes finances, un bilan sur ta santé, un bilan sur où est-ce que tu es, où est-ce que tu vas. Et 10, je décide de ne plus jamais oublier que ce qui se passe en moi influe grandement sur le reste de ma vie. Donc, si vous avez compris ce soir, on va commencer. L'idée, c'est de vous donner cette liste-là pour vous aider et m'aider à avoir des clés et comprendre que si je veux ne plus jamais tomber dans le même trou, je change de direction. Et je vais commencer par un sujet poignant ce soir. Je vous demande d'avoir vraiment compris que mon cœur, c'est que je vous aime. Et je veux vraiment nous aider ce soir à vivre une vie ouinte et passionnante et bénie, mais il faut pour cela prendre de bonnes décisions. Le psaume 119, verset 71 est magnifique. Et David parle à Dieu et il dit, pour moi, la souffrance a été une bonne chose. Elle m'a appris ce que tu voulais. Wow! Arrive à un stade de ta vie où tu te dis, mince, je suis tombé dans ce trou là, parce que je ne savais pas ce que Dieu voulait de moi. J'ai fait ma propre volonté, ma propre décision, mon propre style de vie. J'ai choisi mes propres directives et bam, dans le trou. Le jour où j'ai changé de direction, ma vie a changé. J'ai choisi le plan de Dieu et le plan de Dieu est déjà béni. Alors vous savez, j'ai une vérité pour vous ce soir très poignante. Vous devez s'il vous plaît écouter attentivement, c'est pas facile à comprendre. Écoutez bien cela. Si tu retournes en arrière, c'est que tu ne vas pas de l'avant. Environ quelques heures de réflexion là-dessus. Vous savez, je sais que Dieu, écoutez bien ça, le point de ce soir, numéro un, c'est je ne vais plus jamais retourner vers ce qui n'a pas fonctionné. Le point de ce soir principal, c'est je ne vais plus jamais retourner vers ce qui n'a pas fonctionné. Et je sais que Dieu est le Dieu des secondes chances. Et des troisièmes chances, Il y a des quatrièmes chances. Et je comprends ce que vous allez me dire. Je ne comprends pas. Je vois pas pourquoi on ne peut pas retourner. Et je vais prendre l'exemple concret d'un couple qui n'est pas encore marié. Ça fait 4 ans que j'ai le même gars. Et le gars, c'est un sirop de l'eau. Et toi, tous les ans, tu pleures. Toutes les semaines, tu pleures. Mais tu retournes avec lui parce que tu l'aimes. Comme si l'amour était une raison suffisante pour créer un couple. Les gens mariés et sincères vont vous dire que l'amour ne suffit pas. Qui peut dire amen à cela? Ok. Ouais, mais vous, c'est facile pour vous, vous êtes mariés. Ouais, mais nous on aimerait ce soir encourager tous les non-mariés à bien réfléchir à ce que vous faites. Ça, c'est cool l'atmosphère ce soir, hein? Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Écoutez bien cela. Il y a une différence entre donner une nouvelle chance et retourner à son vomi. Pourquoi ? Une nouvelle chance, écoutez bien s'il vous plaît. Si vous êtes marié, ce message n'est pas pour vous. Enfin, en tout cas, cet exemple-là. Une nouvelle chance signifie un nouveau départ, oui ou non? Mais pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il y ait de nouvelles bases. Si tu continues à retourner toujours avec le même gars qui fume le joint, qui boit, il y a plus d'alcool dans son sang que dans la bouteille de rhum. Tu te dis, mais tu sais, je l'aime et je sais qu'il va changer. Et tu confonds l'espérance avec un souhait. L'espérance repose sur le fruit. Le souhait, c'est l'espérance sans le fruit. Quand tu espères et que le fruit est dans la vie de quelqu'un, et tu te dis, je veux reprendre avec toi parce que j'ai vu que tu as changé, tu mérites donc une nouvelle chance. Mais si le gars n'a pas changé et que tu retournes avec lui avec un souhait, tu retournes à ton vomi. Et dans un an, on va en reparler, tu auras le même problème, il n'aura pas changé. Il sera toujours ce gars prétentieux, orgueilleux, vaniteux qui te manipule, qui veut qu'une seule chose, c'est ton corps. Mais si tu es une jeune femme solide en Christ et tu es construite et tu sais ce que tu veux et tu lui dis « Brian !» Je t'aime, mais je t'aime trop pour te laisser me détruire. Et je vais te donner une chance de changer avant de commencer une nouvelle chance. Qu'est-ce que la rédemption ? La rédemption, écoutez bien ça. Estève, qui est un enseignant ici de la parole de Dieu, c'est le gars à qui je me réfère pour la doctrine ce soir, tu me corriges si je me trompe ce soir en live. La rédemption ne se manifeste que dès l'instant où mon cœur se repent vraiment. Elle existe avant ma repentance, mais elle est active quand je me repens. Dieu dit en entre termes, je te donne une nouvelle chance dès l'instant où tu te repens vraiment. Mais si tu ne te repens pas, tu fais ta vie de tous les jours, tu fais ce que tu veux quand tu veux, et tu penses que Dieu te donne une nouvelle chance, ce n'est pas des nouvelles chances, tu restes dans ton vomi. Et Dieu a besoin de la folie. Et David dit ici, la souffrance, l'erreur, l'échec, le trou a été pour moi une bonne chose. J'ai appris ce que tu voulais. Et quand je respire, celui qui respire, c'est celui qui a appris ce que Dieu voulait. Il vit une vie de repentance. Il sait, où là ça ne marche pas. Là ça marche. Là il y a un trou, là il n'y a pas de trou. La différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui n'en ont pas, c'est que celui qui a du succès, il sait qu'il peut espérer en quelqu'un qui porte du fruit digne de repentance. Alors que l'autre, il a un souhait. Je souhaite que tu changes. Mais je l'aime, Bruno, tu comprends pas, je suis folle de lui. Oui, mais il te tape. Oui, mais je suis folle quand même de ses tapins. Non, tu es folle tout court. Hein, je sais que c'est... Voilà, c'est ça. Mais si l'Église n'arrive pas à parler des choses qui nous touchent vraiment tous les jours et qui me font pleurer dans mon bureau, quand j'entend des jeunes femmes qui se fourvoient et qui font des mauvaises choses, est-ce que je l'aime? Mais si tu l'aimes, donne-lui une chance de se repentir d'abord. et après donne-lui une chance de construire avec toi. Si tu es patron d'un business, si tu as une entreprise, vous qui êtes chef d'entreprise, tu vas employer une personne qui te vole une fois. Si tu es un chrétien, tu vas pardonner. Le gars te vole deux fois, tu le gardes ou tu le licencies? Aidez-moi pour que je prie pour vous si vous êtes des... On le licencie, oui, et vite encore. S'il revient un an plus tard, tu sais, j'ai changé. D'accord, je te reprends. Pas de test, rien. Claque-toi avant de commencer, mec. Le gars, un mois plus tard, purée, il m'a revolé. Je comprends pas, pourtant j'ai prié. Mais t'es vraiment bête comme tes doigts de pied. Non, il faut arriver à un stade où notre vie chrétienne soit sage. C'est par la sagesse qu'on construit une maison, par l'intelligence qu'on la rend habitable. L'église extravagance va grandir et affecter le monde spirituel et influencer la nation que si vous et moi, nous sommes sages. Cela va signifier que vous devrez, avec moi, accepter les changements de Dieu. Je demandais ce matin à l'équipe pastorale, allons prendre une feuille blanche et allons écrire l'église du 21e siècle que Dieu nous demande de construire. Je vous demande de réfléchir avec moi, quel genre de vie d'église vous voulez avoir et proposer à un monde qui va en enfer, parce que la mission, là, c'est pas de faire les foufous, hein. La mission c'est de gagner des âmes, d'être une solution pour les couples qui souffrent. Et parfois, comme ce soir, il faut savoir dire les choses qui font mal. Il y a une différence entre espérer et souhaiter. La différence, c'est le fruit. Tu espères en quelqu'un qui porte du fruit et tu souhaites seulement. Et le souhait, c'est l'espérance sans le fruit. Le gars vient te voir. Chérie, je te demande pardon, j'ai compris. Non, est-ce que tu as arrêté le joint? Non, je n'ai pas arrêté le joint parce que je t'aime et j'aime le joint aussi. Mais tu sais, et quand on sera joints ensemble et qu'on aura des enfants, je vais arrêter le joint. Mais là, mon ami, si tu continues comme ça, mais oublie ta vie, tu vas être malheureuse. Quand tu vas vouloir dire à ton chéri, chéri, on va à l'église pour servir Dieu. Ça dit où là? Fini. Seigneur, j'ai prié. Après, écoutez ça. Écoutez, parce qu'on vient me voir. Dieu m'aime pas. Comment ça t'aime pas? J'ai beau prier, il change pas. Il change pas mon mari, il change pas mon petit ami, il m'aime pas. Et attends. Et t'as un cœur. T'as des choix. Tu pries, tu cherches Dieu. Donne-lui une chance d'abord de se repentir et après, donne une chance de construire avec toi. Plus jamais, je décide de retourner vers ce qui ne marche pas. Si je retourne vers ce qui ne marche pas, je retourne à ma folie, je retourne à mon vomi. Mais si je retourne vers quelqu'un qui montre un fruit de repentance, alors c'est une vraie nouvelle chance. C'est un vrai nouveau départ. Et là, on y va à fond, on aide la personne à fond, on la soutient. Mais s'il n'y a pas de vie de repentance, il n'y a pas de respiration. Si tu retournes avec quelqu'un, ou tu embauches quelqu'un à nouveau, ou tu décides de faire confiance à nouveau, assure-toi qu'il y a eu du changement entre-temps. On prend cet exemple concret d'un couple. Si tu as quitté le gars, c'est pour une raison. Pourquoi tu le reprends en ignorant la raison pour laquelle tu l'as quitté? Tu le quittes en ouvrant les yeux, tu reviens en fermant les yeux. C'est pas normal. Oui, l'amour rend aveugle, je sais, mais le mariage te rend la vue. Bon, alors... J'ai serré dans cette série-là et dimanche matin, je vais prendre un deuxième point, pas dans l'ordre, je vais vraiment vous encourager. À la fin de ce mois-ci, vous aurez pas mal de paramètres à vous dire, ouh, là, je comprends pourquoi, j'ai beau prier, pasteur Steve m'impose les mains, pasteur Marc m'impose les mains, pasteur Lyon m'impose les mains. L'onction est là, la gloire de Dieu est là, je sais que Dieu est présent, mais il y a un truc qui ne marche toujours pas. Dieu ne m'aime pas. Si Dieu t'aime, il est fou de toi. Mais il y a peut-être quelque chose que tu continues à faire, qui interdit toute manifestation de ce que Dieu veut faire dans ta vie. L'Église extravagance doit se poser les mêmes questions. Qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas la gloire de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons qui nous place dans un trou. Qu'est-ce que nous faisons, que nous devrions arrêter de faire, qui va donner une plus grande influence de Christ à la Réunion? Vous savez, l'un de mes désirs les plus forts dans mon cœur, c'est de rendre Jésus-Christ encore plus célèbre qu'il en est déjà. Trois questions ce soir pour finir. Trois questions que vous devriez vous poser, que je devrais me poser avant de reprendre ou de retourner vers quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être dans une situation de ta vie, ça peut être dans un pays, ça peut être dans une nation, ça peut être ce que tu veux. J'ai pris l'exemple concret d'un jeune couple qui n'est pas encore marié, d'une jeune fille qui est folle amoureuse, parce que c'est un sujet tellement basique, mais je pense que vous avez compris le principe. Première question, écoutez bien ça. Tu es là dans ta vie ce soir et tu es amoureuse du gars ou tu es amoureux de la fille. Depuis 4 ans, ça ne marche pas. Tu pleures jour après jour, semaine après semaine. Tu n'es pas encore marié, donc tu as encore le choix de faire attention. Ou tu es un homme d'affaires et tu vas embaucher quelqu'un et tu sais qu'il t'a trahi, qu'il t'a blessé, qu'il t'a volé ou qu'il t'a menti. Donc tu as du mal à lui faire confiance, mais tu es chrétien, mais tu veux donner une nouvelle chance. Avant de faire cela, premièrement, est-ce que tu es différent et suffisamment reconstruit pour avoir la situation dans tes mains? Être capable de dire je suis différent, je suis reconstruit, pleinement capable de changer la situation. Ça, c'est un paramètre fondamental numéro un. Est-ce que tu peux le faire? Deuxième question, est-ce que l'autre personne a changé? Je t'aime, mais est-ce que tu as changé? Non, je t'aime, mais je ne pourrai pas construire avec toi tant que tu ne respires pas. Je vais t'aider à changer, je vais t'encourager, je vais t'aimer par l'amour de Christ, mais pour l'instant, toi et moi, on n'est pas ensemble tant que je n'aurai pas vu des fruits de changement dans ta vie. Et troisième chose, est-ce que la situation a changé? Est-ce que les feux sont au vert? Est-ce que les paramètres sont au vert? Si vous avez ce genre de mentalité dans votre cœur, si moi, ce soir, je pense comme ça, et on va penser ensemble dans le futur, imaginons ce soir, il nous faut embaucher des pasteurs, par exemple. Je dois penser comme ça. Est-ce que le nouveau pasteur qui arrive, est-ce qu'il est digne de confiance? J'ai vu cette annonce-là, très forte aux USA. Les Américains ont le meilleur et le pire aussi, ils sont trop forts. Une annonce qui dit, je suis un pasteur, je cherche une église. Le gars envoie le CV. Le CV disait... Le gars a été pasteur de 19 églises desquelles il a tout le monde l'a viré à chaque fois. Tonnerre de CV. Pourquoi tu veux que la 20e te fasse confiance? T'en as 19 qui t'ont viré. Là, il y a un problème. Donc, quel est le but de ce soir? C'est de vous encourager à vous dire, les amis, on est là à l'aube d'une saison extraordinaire de puissance, de croissance, de miracles, de signes, de prodiges. Les hommes qui font de l'argent font plus d'argent pour la gloire de Dieu, pas pour un homme, pour la gloire de Dieu, mais nous ne sommes pas capables de ce soir de dire plus jamais je ne retournerai vers ce qui n'a jamais fonctionné. Et s'il y a une seconde chance, c'est qu'il y a un fondement pour la seconde chance. Et ce fondement, c'est le fruit de la repentance. Il faut qu'on voit, ok, je peux lui faire confiance, je peux recommencer à bosser avec lui, je peux, ok, je sens, le feu est vert et tes amis te disent, je sens la paix. Mais sinon, tu vas souffrir. Et ce qui t'a fait souffrir cette année, te faisait déjà souffrir il y a un an. Il est important ce soir de décider ensemble, plus jamais je ne retournerai à ce qui n'a jamais fonctionné. Pensez à l'image de ce trou-là, profond, béant, qui fait mal. Il faut des mois pour en sortir, et vous le savez tous comme moi. Change de direction. Ah, je sais, c'est compliqué à faire, je comprends. Change de direction. Il m'a fallu des années pour comprendre. Et je vais être franc avec vous. Il m'a fallu des années pour comprendre que si je dépense plus que ce que je gagne, je crée des dettes. Oui, mais c'était les soldes. Dieu comprend, il n'y aura plus après. Ça ne marche pas. Alain Mandos, qui est mon beau-père, que j'aime de tout mon cœur, qui parfois m'énerve quand il me dit « Bruno, si tu veux être riche, dépense rien. » C'est sage, ça m'énerve, mais c'est vraiment sage. Il veut dire « dépense non rien de stupide. » Il n'est pas pingue, il n'est pas radin, il est très généreux, mais dépense rien qui n'en vaut pas la peine. C'est sage. Choisis là où tu veux voir des fruits et sème là où tu veux voir des fruits. On va prier ensemble ce soir.